Et pourtant, c'est surtout au miroir de l'Allemagne que pendant plus de 40 ans, la France a cru pouvoir se définir, et c'est d'abord par rapport à l'évolution allemande qu'elle a pensé appréhender sa propre place dans le monde contemporain. C'est ce que montre Claude Dijon dans son ouvrage « La crise allemande de la pensée française 1870-1914 » paru en 1959. Cette crise résulte de l'effondrement de la croyance dominante jusqu'à 1870 à une hégémonie française en Europe. Après une défaite perçue comme un désastre, elle a fait place à l'idée que l'Allemagne de Bismarck avait supplanté la France dans ce rôle hégémonique en Europe. Dans les milieux intellectuels français, la défaite va entraîner un changement brusque et radical dans la représentation et la perception de l'Allemagne. Un bref rappel. Pour beaucoup d'intellectuels français avait perduré jusqu'en 1870, peu ou prou, la vision idéalisée qu'en avait donnée Madame de Staël dans son livre de l'Allemagne, qui datait des années 1810-1813. L'image d'une Allemagne rêveuse et romantique, amie des lettres et des idées, restée à l'écart du temps et des réalités modernes, et contrastant avec la France autoritaire, militariste et centralisée de Napoléon. Toutefois, lors de la crise du Rhin de 1840, une polémique s'était engagée entre Musset et le poète allemand Nicolas Becker. Et dès avant 1870, c'est Edgar Quinet qui mettra ses lecteurs en garde contre l'Allemagne, Edgar Quinet qui connaissait bien l'Allemagne et son évolution. On peut dire, depuis l'époque des Lumières jusqu'aux premières décennies du XIXe siècle, il y avait eu une réception positive de la philosophie idéaliste allemande, Kant, Hegel, Schelling, de la création artistique et aussi des recherches en matière de science. L'intérêt porté à la connaissance des réalités allemandes avait également été favorisé par le dialogue franco-allemand qui s'était engagé avant la révolution de 1848 grâce à la médiation d'exilés allemands à Paris comme Heine, Marx ou Adolf Ruge. Cet intérêt s'était traduit notamment par le développement de l'enseignement de l'allemand en France, voire les travaux de Michael Werner, ici présent, et de Michel Espagne sur les transferts culturels franco-allemands au XVIIIe et XIXe siècle. Mais malgré cet intérêt d'ordre intellectuel pour l'Allemagne, on ignorait largement en France l'évolution de la société allemande et ses aspirations politiques. Avec la défaite, on va passer sans transition de ces visions positives de l'Allemagne à la hantise d'une Allemagne guerrière, brutale et sans scrupules, foulant aux pieds ses idéaux humanistes antérieurs. Il va se diffuser dans l'opinion publique un anti-germanisme très marqué, qui auparavant avait surtout cours dans une droite française catholique qui considérait l'Allemagne moderne, je cite une chercheuse allemande, Beate Götte-Baumanns, comme le foyer de l'hérésie, de l'athéisme, du matérialisme et d'autres péchés d'esprit, adversaires barbares de la civilisation chrétienne. Fin de citation. Cet anti-germanisme s'atténuera un peu dans les années 1880 pour se raviver, cette fois teinté d'antisémitisme, avec l'affaire Dreyfus, capitaine français d'origine juive, accusé à tort de trahison au profit de l'Allemagne. Nombre d'intellectuels libéraux qui avaient admiré l'Allemagne vont dédoubler leur image de celle-ci sous le choc de la défaite, considérant désormais qu'il y aurait deux Allemagnes, la bonne Allemagne de Kant et de Goethe et la mauvaise, la nouvelle Allemagne de Bismarck qui a vaincu la France. Formulée entre autres par Renan, cette idée est largement reprise par l'historiographie française sur l'Allemagne entre 1871 et 1914. Ces tenants s'accordent à penser que la bonne Allemagne appartient au passé et la mauvaise domine le présent. Il varie par contre sur les chances qu'aurait l'Allemagne de retrouver un jour ses qualités perdues et se voit aussi un peu comme les dépositaires de ces idéaux allemands trahis en Allemagne, ce qui est pour le moins paradoxal.